nous avons vu au dernier cours l'épître au roi. Je voudrais aborder cet après-midi, dans un premier temps, la préface. La préface est une préface générale adressée au public, éditée dès 1559 comme lettre préface à la version des 35 articles. Nous avons vu au dernier cours et qu'il y avait deux versions de la confession. Une version en 35 articles, c'est celle qui est rédigée par Calvin, où on pense, dont Calvin assume la paternité. C'est une version qui circulait, et aussi circulait la version synodale en 40 articles, celle proprement du synode de 1559. Et la version en 35 articles circulait dans le pays avec cette préface. La préface est intitulée « Les pauvres fidèles qui sont injustement diffamés ». Pauvres fidèles qui sont injustement diffamés et affligés par le royaume de France. Attention, c'est de l'ancien français, hein, ça ne veut pas dire que c'est le royaume de France qui les afflige, mais c'est à travers le royaume de France, hein, de par le royaume de France. Les pauvres fidèles qui sont injustement diffamés et affligés par le royaume de France, à tous ceux qui leur voudront prêter audience. Ici, donc, chacun le voit, on ne s'adresse pas aux autorités du royaume, mais on s'adresse à quiconque voudra entendre. Alors, de cette préface, je vous extrais de larges passages qui me semblent significatifs. Voilà des extraits de la préface. Il y a deux espèces de gens qui nous haïssent sans raison valable, ou nous tiennent suspects, ou sont dégoûtés de nous, et que nous désirons et prétendons apaiser, moyennant qu'il leur plaise nous écouter. Deux espèces de gens qui nous haïssent. Les premiers seront les plus difficiles à recevoir raison et vérité, à savoir ceux qui, par crainte d'endurer fâcherie ou dommage, désire nager entre deux eaux et se contrefond pour plaire au monde, car bien qu'ils ne soient pas envenimés de haine contre nous, ils ne sont pourtant point maris d'ouïr qu'on nous accuse en ceci et en cela. Ils hument même volontiers les calomnies qu'on nous impose et sont trop enclins à y ajouter foi. Néanmoins encore, penserons-nous que plusieurs de ce nombre, nous ayant entendus, seront satisfaits et pour le moins abandonneront les opinions mauvaises et sinistres qu'ils avaient conçues contre nous. Ça, c'est les premiers. Les seconds, ou totalement ignorants, ou encore fort débiles, sont trop crédules en leur simplicité, en sorte que, sans discrétion et par inadvertance, ils nous condamneront souvent à la volée sur quelques rapports frivoles et controuvés qu'ils auront ouïs. Nous prions donc les uns et les autres, ensemble, de ne point précipiter ainsi leur jugement pour condamner les hommes et les faits qui leur sont inconnus. Car, quand tout est dit, en nous faisant tort, ils se font plus grand dommage en ce qu'ils ne se donnent point garde de l'astuce du diable qui tâche et machine par tel scandale de les débaucher et les égarer du bon chemin, leur rendant la parole de Dieu odieuse en laquelle gît leur salut. Voyez, la confession doit convaincre deux catégories d'individus. Quelle est la première catégorie?
Ceux qui nagent entre deux eaux.
Voilà. Alors, ce sont ceux qui nagent entre deux eaux. Et alors? Florian.
Ceux qui n'avaient pas avoué qu'ils ont de la sympathie pour le côté, c'est une hypodémie, finalement.
Voilà. Voilà. C'est vous qui avez la réponse. Ce sont les nicodémites. Vous voyez que, mine de rien, nous revenons sur des notions déjà vues. Ce sont les nicodémites, hein, ceux qui, par allusion, évidemment, à Nicodème, qui vient voir Jésus de nuit, ce sont ceux qui ne veulent pas se compromettre. Ils ne sont pas opposés à la réforme. Mais, néanmoins, ils participeront aux cérémonies de l'Église romaine. Et Calvin va même plus tard, vous le savez, même plus tôt maintenant. Et Calvin a écrit un livre « Excuses à messieurs les Nicodémites ». Et Calvin va d'ailleurs leur présenter un choix bien redoutable. Il va leur dire « Ou bien vous restez en France pour témoigner ouvertement de votre foi, ou bien vous partez en exil. Mais arrêtez de faire les Nicodémites en pointillés. » Voilà, alors premièrement, la première catégorie que la confession veut connaître, veut convaincre, ce sont les nicodémites. Deuxième catégorie, eh bien, ce sont ceux qui ne savent pas ce qu'est la foi évangélique. Ça va, vous suivez? On prend un détour, évidemment, mais ici nous faisons de l'histoire, donc nous allons être à la frontière, si vous voulez, entre la dogmatique, la symbolique et l'histoire. Et donc, nous replaçons dans le contexte et nous essayons de voir le texte. Je poursuis la préface. Nous voulons bien aussi protester que notre intention et désir et que notre cause soient entendues de tout le monde. Car de même que nous cheminons en droiture et intégrité de conscience devant Dieu et devant les anges, aussi n'avons-nous point honte que toute créature connaisse quels nous sommes. C'est pourquoi nous prions ceux auxquels nous sommes étrangers de ne point dédaigner lire notre présente excuse. Ce passage est intéressant parce qu'il souligne un caractère distinctif de beaucoup de confessions de foi de cette époque. L'Église, en confessant sa foi, veut, comme il est dit, protester. Nous voulons bien aussi protester que notre intention. Évidemment, vous voyez que il y a un apparentement entre ici l'Église qui veut protester et l'appellation du protestant. Les protestants sont ceux qui protestent. Attention, ça ne veut pas dire protester comme on dirait dans notre vocabulaire aujourd'hui. Hein, ce sont ceux qui témoignent. Hein. Nous protestons que, c'est-à-dire nous témoignons que, à l'époque, hein, nous affirmons que. Ça veut dire, ça veut dire que le protestant est toujours mécontent, hein, il proteste en toute chose. Hein. Ça veut dire que nous voulons bien aussi protester, ça veut dire que nous voulons bien aussi affirmer. L'Église, en confessant sa foi, veut protester. Elle veut déclarer publiquement, et même, j'ai un peu adapté le jeu français de l'époque, elle veut déclarer publiquement qu'elle a bonne conscience devant Dieu et devant ses anges. C'est, voilà pourquoi la confession de foi ne peut rester un acte privé. Espèce de machin piétiste. On est entre nous, on s'aime bien, et pourvu que les gens de l'extérieur ne viennent pas nous embêter. Tellement on est bien entre nous. Non, ici, la confession ne se veut pas une règle intérieure à l'Église. L'Église a très clairement conscience qu'il s'agit d'une question publique. Tout le monde doit l'entendre. Et c'est pourquoi, on l'a dit, le dernier jour, au dernier moment, la confession terminée, on va ouvrir les portes du lieu dans lequel on se trouve et pour proclamer devant, symboliquement devant la face de Paris le texte de la confession. Et il y a un lien entre ici et ce que nous avons vu au dernier cours de l'Épître au roi, c'est le principe scripturaire. Là où on ne veut qu'obéir à la parole de Dieu, on ne peut agir qu'en privé. On est devant Dieu et devant ses anges. Et donc en face de tout le monde, en face de tout l'univers, il faut parler à haute voix et dire sa foi publiquement. La préface relève ensuite les crimes dont on accuse les réformes. Les crimes dont on nous accuse sont compris en somme en deux articles. Le premier est que nous tenons fausse doctrine et contraire à la foi catholique que tous les vrais chrétiens doivent suivre. Vous voyez, la préface de la confession ressent le besoin de prouver que les réformés ne sont pas des hérétiques. Hérétique ? Non ? Pas du tout. De ce fait, nous sommes appelés hérétiques à pleine bouche. S'il en est ainsi ou non, nous en laisserons juger par notre confession. Au lieu de nous juger sur des on-dit, etc., c'est la confession elle-même. Ce texte que nous rendons public, qui va dire si oui ou non on est hérétique ? Ici, on a la langue bleue. De ce fait, nous sommes appelés hérétiques à pleine bouche, s'il en est ainsi ou non, nous en laisserons juger par notre confession. Nous n'avons entrepris que de proposer simplement quelle est notre foi, selon laquelle nous adorons et invoquons le Dieu vivant au nom de son Fils unique, notre Sauveur et Rédempteur. C'est pourquoi ce nous sera assez d'avoir à présent affirmé qu'on nous fait grand tort en nous chargeant de cette calomnie, que nous ayons forgé quelques nouvelles sectes. Nous ne sommes pas une nouvelle secte, vu que nous nous accordons avec l'Église ancienne, qui s'en est tenue à la loi et à l'Évangile. Et c'est de cette seule source que nous devons puiser tout ce qui appartient à notre salut, de quoi chacun pourra juger par notre confession, en laquelle il n'y a rien de fardé, et où nous n'avons usé de nul artifice, mais où nous avons déclaré de bouche devant les hommes ce que nous croyons de cœur devant Dieu, pour y vivre constamment et y mourir par sa grâce. On n'est pas du tout des hérétiques, on s'accorde avec l'Église ancienne. Nous ne sommes pas une révolution qui fait aboutir l'Église réformée dans autre chose que l'Église de toujours. Hein, nous accordons à l'Église ancienne. On nous reproche en second lieu que nous sommes schismatiques, parce que nous ne fréquentons pas les assemblées papales. mais plutôt les fuyons, et nous en tenons séparés, et que, ce faisant, nous nous assemblons par petites compagnies pour invoquer le nom de Dieu, nous édifiant sa crainte et en la foi de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous fortifier en tout bien par saintes exhortations, ajoutant aussi l'usage de la Sainte Cène tel qu'il a été institué par le Fils de Dieu qui en est le seul auteur. Et on retrouve encore ce que nous avons vu dans l'Épître aux Rois, hein, l'Église, c'est là où il y a la prédication de la parole, ici on parle d'exhortation, hein, et l'administration du sacrement. Ici on parle de l'usage de la Sainte Cène. Nous ne doutons point que tous ceux qui jugeront avec discrétion ne nous soient équitables, bien que nous ne cherchions pas tant leur faveur que de les réveiller et émouvoir afin qu'ils apprennent à se ranger au troupeau de ce grand pasteur qui nous appelle et convie tant doucement à soi, et que par ce moyen, le nom de Dieu soit glorifié en nous. Mais ces textes, évidemment, sont un peu difficiles parce qu'ils sont dans le français de l'époque. Donc nous avons vu l'Épître aux Rois, nous venons de voir la préface. Eh bien, je vous propose maintenant une analyse de la Confessio Gallicana à la lumière des autres confessions cardinales de la foi. Il s'agira d'une étude historico-théologique, un commentaire cursif, article par article, nous essaierons peut-être par moment de faire des regroupements de ce document vénérable de la Réformation. Le but de cette étude est de permettre l'exposition d'une vue perspective et panoramique de l'ensemble du contenu de la foi réformée confessante. Je pensais que ça pourrait être intéressant pour vous que vous ayez ce résumé de la doctrine réformée telle qu'elle est perçue au XVIe siècle. Alors cette confession a en gros 9 parties, évidemment ça dépend de comment on fait les divisions. Il y a, me semble-t-il, les articles 1 à 5, que je vais appeler de la révélation de Dieu. Article 1 à 5, premièrement, article 1 à 5, de la révélation de Dieu. Deuxièmement, article 6, de la Trinité. Troisièmement, article 7 de la création. Troisièmement, article 7 de la création. Quatrièmement, article 8 de la providence. Cinquièmement, article au pluriel 9 à 11, du péché. Sixièmement, article 12 à 24, de la rédemption en Christ. Article, septièmement, article 25 à 33 de l'Église. Article 34 à 38 des sacrements. Neuvièmement, article 39 à 40 de l'État. De l'État.
Ah, pardon.
Du pouvoir public. Oui. Ça va? Ça vous donne une idée de nos affaires? Calvin a donc, j'espère que vous suivez bien ce point, Calvin a proposé un texte et le synode en a adopté un autre. C'est d'accord là-dessus, hein? Et Calvin a proposé un texte en 35 articles et le synode l'a transformé en 40 articles, hein? En faisant éclater, on l'a vu, le premier en 5 et en modifiant aussi les derniers. La rédaction des deux premiers articles de la Confession de La Rochelle a été vivement critiquée. La rédaction des deux premiers articles de la Confession de Paris ou de la Confession de La Rochelle a été vivement critiquée comme étant infidèle à la pensée de Jean. La Confession, vous l'avez sous les yeux, débute par un développement sur Dieu et ses attributs, un développement sur Dieu et ses attributs, qui ne fait pas directement référence à la révélation biblique. Et la Confession ne part pas de la Bible, elle part de Dieu. Évidemment, si vous avez le texte dans vos cartables, c'est le moment de le sortir. Si vous ne l'avez pas, culpabilisez-vous et arrangez-vous pour l'avoir au prochain coup. Il y en a encore à la librairie, oui. Il n'y en a plus ?
Non, au stock, il y en a, mais il reste celle de
Confial.
Alors, il faudrait voir avec Mademoiselle de Védrine, parce que la faculté doit avoir un stock dans les éditions Clipma, parce que ce texte est diffusé par les éditions Clipma. Donc, le secrétariat, Mademoiselle de Védrine, vous aurez peut renouveler le stock, ou bien vous adresser directement à Mademoiselle de Védrine. Enfin, vous voyez. Arrangez-vous pour avoir ce petit texte, quand même. En contraste à cette Confession de 1559, enfin, au texte, disons, parisien, le projet que Calvin envoya au synode fait résulter la connaissance de Dieu de la seule Écriture. Le texte de Calvin dit c'est par l'écriture que nous connaissons Dieu. Vous voyez la différence. Maintenant, je vous l'indique et maintenant nous allons la voir. Le texte du réformateur de Genève, le voici. Parce que le fondement de croire, là, ici, j'adapte, c'est dans le texte original, c'est pour ce que, hein, nous avons vu que le texte de Calvin circule avec le titre « Pour ce que », c'est le début du texte. Parce que le fondement de croire, comme dit saint Paul, est la parole de Dieu, vous allez voir, c'est un texte très beau, ce texte de Calvin. Parce que le fondement de croire, comme dit saint Paul, et la parole de Dieu, nous croyons que le Dieu vivant est manifeste en sa loi et par ses prophètes, et finalement dans l'Évangile. Et il y a rendu témoignage de sa volonté autant qu'il est expédient pour le salut des hommes. C'est-à-dire, vous voyez que la Bible n'est pas là pour satisfaire exhaustivement notre curiosité, mais que son contenu de sens, c'est ce qui est nécessaire pour nous de croire, pour nous de pour notre salut. C'est ça que ça veut dire. Autant qu'il est expédient pour le salut des hommes. Ainsi, nous tenons les livres de la Sainte Écriture, de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme la seule vérité infaillible procédée de Dieu, à laquelle il est licite de contredire. Même parce que là est contenue la règle parfaite de toute sagesse, nous croyons qu'il n'est licite d'y rien ajouter ni diminuer, parce qu'il y faut acquiescer en tout et partout. Et comme cette doctrine ne prend son autorité ni des hommes, ni des anges, mais de Dieu seul, nous croyons, car ces choses surmontant tout sens humain de discerner que c'est Dieu qui parle, nous croyons que c'est lui seul qui donne la certitude de cette doctrine à ses élus et la scelle dans leur cœur par son esprit. Étant ainsi fondés, nous croyons en un seul Dieu éternel, d'une essence spirituelle incompréhensible et simple, toutefois en laquelle il y a trois personnes distinctes, et puis suit l'actuel article 6. Voilà le texte de Calvin. Comme vous l'aurez remarqué, le texte proposé par le génial réformateur présente avec saveur et vigueur, c'est un admirable préambule, d'emblée le Dieu révélé. D'emblée la révélation scripturaire. La Bible, d'emblée. Or, le texte synodal de 1559 commence par les attributs de Dieu en faisant comme abstraction de la notion de révélation. Vincent, lisez l'article premier.
Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse.
Voilà. Vous voyez, c'est un texte tout à fait différent, c'est une autre idée. C'est même. Alors, l'article premier, la confession, commence par une affirmation, qui est aussi une proclamation. Nous croyons et confessons. Nous croyons non pas la prise de position personnelle pour affirmer en qui je crois. L'engagement individuel de la foi qui croit il y en aurait autant que de croyants. Elle est plus cette confession encore que ce que je crois. C'est la confession de foi comme résumé objectif de la foi. Ici, vous avez dans le Nouveau Testament, par exemple, les confessions baptismale. Eh bien, vous avez dans l'Église ou ailleurs une proclamation individuelle de la foi d'un fidèle qui se lève et qui dit voilà en qui je crois, voilà ma foi. C'est ça la foi qui croit. Deuxièmement, vous avez ce que je crois. C'est la confession de foi comme résumé objectif de la foi. Et bien là, vous avez, par exemple, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Vous avez la confession de foi du symbole de Nicée-Constantinople, hein, ici. Hein, c'est ça, c'est les grandes confessions de foi de l'Église. Ici, c'est l'accent est sur le contenu de la foi proposée à la confiance des croyants. L'accent est sur le « ce que ». C'est sur le contenu de l'accent. Et ici, ce n'est plus la foi qui croit, mais c'est la foi qu'on croit. Troisièmement, la confession de la Rochelle, elle dit ce que nous croyons. Et ici, c'est l'exposé collectif d'une foi collective. Elle est plus un ce que je crois, elle est plus que en qui je crois, elle est plus que ce que je crois, un résumé objectif, un contenu de la foi, c'est la confession comme charte doctrinale. Ici, la confession est comparable à dans les églises, à la constitution politique pour les États. Elle est la foi, en troisièmement, elle est la foi de l'ensemble des croyants. C'est le nous de l'Église ici. C'est ce que nous croyons. Le nous de l'Église, c'est-à-dire la foi de l'Église qui est plus vaste, plus ferme, plus constante que la foi individuelle de chaque croyant. Et ici, dans ce troisième type, vous avez bien la confession de foi de la Rochelle. C'est un texte qui sera plus long, parce que c'est comme une charte politique à la base de la définition et du contenu d'une nation. Là, c'est la base du contenu d'une, d'une d'une église. La confession de foi ne représente pas la moyenne de la foi des fidèles. Elle n'est pas la somme de leurs concessions mutuelles. La confession de foi, surtout dans ce troisième aspect, mais évidemment, les trois aspects que j'essaie de typer au tableau sont liés entre eux, hein, mais la confession de foi, elle n'est pas le reflet des opinions du moment. Elle est plus que cela. Elle a au contraire un rôle critique. Elle a un rôle critique et un rôle normatif à l'égard de tout cela. En unité avec toutes les autres confessions de foi réformées, la Confessio Gallicana affirme par cette formule solennelle « Nous croyons et nous confessons », elle affirme dans la foi la volonté de l'Église de se soumettre en toute chose à Dieu. Au total, donc, ce n'est pas une profession de foi subjective comme on ferait, surtout ici dans le premier moment, comme on ferait au cours d'un baptême d'adulte. On se lève et on dit « voilà ma foi, je viens témoigner, voilà quelle est ma foi à moi ». Évidemment, on souhaite que ça ressemble à la foi de l'Église, mais voilà ma foi à moi. Et c'est ce qu'on fait dans une confirmation du baptême, dans d'autres traditions d'adulte. « Voilà ma foi, je crois que Jésus est Seigneur, voilà ce que je crois ». Eh bien, ici, c'est plus encore que cela, ce n'est pas la profession de foi subjective, c'est l'expression commune où chacun peut reconnaître sa foi personnelle et où ceux du dehors, nous venons de le voir par la préface et nous l'avons vu par l'Épître aux Rois, ceux du dehors peuvent trouver l'essentiel de la foi chrétienne. C'est ce que dit la préface. La préface dit, si vous pensez que nous sommes des hérétiques, des schismatiques, etc., eh bien alors lisez ce document. Vous verrez qui nous sommes. Et vous nous jugerez à partir de ce document. Hein? C'est le lien ici entre nous croyons et nous confessons. Il y a un lien. Nous croyons. Nous l'affirmons, mais nous le confessons publiquement. Et nous le confessons même aux autorités de l'État, même au roi. Parce que nous devons à tout homme, nous devons à toute femme, nous devons à toute autorité, sans honte, notre confession de foi. Nous devons en rendre compte. Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, infinie, incompréhensible, ineffable. Vous voyez, nous avons là, la confession va exposer ensuite une série d'affirmations concernant Dieu. Ce sont ce que on appelle les attributs de Dieu, les attributs ou les propriétés de Dieu. Il conduit toute une liste d'attributs. Dieu est éternel, infini, immuable, incompréhensible, ineffable, il peut toute chose, il est tout sage, tout juste, tout bon, tout miséricordieux. Ce sont des attributs qui indiquent en quel Dieu nous croyons. dans l'évangélisation, tellement étonné par ce que me disaient les athées ou les agnostiques ou les sans-dieu ou les contre-dieu, je finissais par dire, écoutez, mais dites-moi vraiment, expliquez-moi encore quel est ce Dieu en qui vous ne croyez pas. Alors ils expliquent. Et je leur disais, mais ce Dieu en qui vous ne croyez pas, bien, ça n'a rien à voir avec le Dieu en qui nous croyons. Et maintenant, vous allez vous arrêter de parler, on va vous expliquer le Dieu en qui nous croyons. Et vous verrez que finalement, lorsqu'on dit Dieu, on ne veut pas dire la même chose. Ça, il faut savoir de quel Dieu parlons-nous. Hein? La confession va dire, va rendre compte du Dieu en qui nous croyons. Voyez que Calvin, dans l'admirable préambule, partait, lui, de la Bible. C'est par la Bible, qui est la vérité, etc., que nous croyons en Dieu, qui est trinitaire. Et ici, le texte de Paris part de Dieu. Il ne parle pas de la Bible, pour le moment. Il n'y a rien sur la Bible. On part de Dieu. Voilà, Dieu. Dieu avec ses attributs. La question irrépressible qui monte en nous maintenant, et celle-ci, elle est grave, le synode de Paris a-t-il trahi la pensée de Calvin ? Mon prédécesseur, glorieux, je ne suis pas digne de désigner la suite, qui était le grand Léonard, qui était le professeur, non seulement de la faculté de l'ancienne faculté de théologie d'Aix, mais encore le professeur d'histoire à la faculté des lettres d'Aix, et bien Émile Léonard, dans par exemple un article qu'il a écrit dans l'ancienne revue de la faculté d'Aix, qui s'appelait Études de l'évangélique. Émile Léonard, dans l'étude évangélique, je vous donne alors des références, ça s'appelle Légende et Histoire du Synode de 1559, paru dans l'étude évangélique 1959, janvier. Mars, numéro 20, page 23 à 25, voilà, surtout. Hein? Eh bien, Émile Léonard dit oui, le synode a trahi Calvin. Dans une autre faculté, qui est la faculté de théologie de Montpellier, le doyen Cadier, Jean Cadier, a écrit un article qui s'appelle La confession de foi de La Rochelle, son histoire, son importance. C'est un article qui est paru dans la revue Réformée. Numéro 86, page 47-48. Jean Cadier, La confession de foi de La Rochelle, son histoire, son importance, la route de l'Éternel, 1971, numéro 86, page 47-48. Le synode a-t-il trahi la pensée de Calvin ? Jean Cadier répond oui. Aussi. Et il va persister, puisque dans sa préface au commentaire de Pierre Cortial, que vous trouvez alors dans l'édition commentée de la Confession, 1979, pages 3 et 4, se référant au préambule du réformateur, Cadier s'écrit, à ce beau texte calviniste, le synode a substitué cinq articles qui sentent la scolastique. Ça, c'était, si vous voulez, pour le ancien doyen de Montpellier, Jean Palier, mais vous avez le doyen, l'ancien doyen de Strasbourg, qui est le doyen Roger Mel, dans son explication de la confession de foi de La Rochelle, explication de la confession de foi de La Rochelle, paru à Paris aux éditions Les Bergers et Les Mages. En 1959, page 27-28. Et Roger Mel, le doyen de Strasbourg, le synode a-t-il trahi la pensée de Calvin? Il répond oui, et il parle d'erreur. Il dit le synode a commis une erreur regrettable. Et dans un texte confidentiel, mais que j'ai quand même chez moi, parce que même des choses confidentielles qui sont publiées, enfin, circulent, elles se finissent par devenir des textes historiques. Le théologien Karl Barth, dans trois études sur la confession de La Rochelle, qu'il a donné à une rencontre vers 1930, j'ai les textes chez moi, je vais les montrer à qui aurait du tout. Karl Barth, qui est le théologien majeur de ce siècle, Karl Barth dit que le synode de Paris a trahi la pensée de Calvin et que même le Karl Barth parle d'hérésie. Il dit qu'il y a là un texte complètement hérétique. Et dans cette rencontre, j'ai en sténographie, en compte-rendu, la discussion après, il y a des pasteurs qui disaient, des pasteurs de 1930, qui disaient, mais quand Karl Barth, nous avons signé cette confession de foi de Rochelle, elle nous engage et vous nous dites que ce texte ne tient plus, et vous nous dites que ce texte est hérétique et qu'il faut arracher les deux premiers articles au moins et remplacer par un texte de Calvin qui est bien gentil, disent ces pasteurs, mais nous ne l'avons pas signé ce texte de Calvin, et ce texte n'a pas été adopté par le synode. Alors qu'est-ce qu'il nous faut faire? Alors Barth dit, ben voilà, nous sommes ici rassemblés, nous représentons l'Église et nous pouvons décider de changer les choses parce que c'est très grave, le synode a trahi la pensée. Eh bien, pour notre part, à nous, nous ne pensons pas que la Gallicana, c'est comme cela que nous allons appeler la confession gallicane, la Gallicana, nous ne pensons pas du tout que la Gallicana et trahi la pensée de Calvin. Comme nous essaierons de le montrer, les premiers articles de la confession gallicane ne, certes, ne sont pas écrits par Calvin, ça ne provient pas là, mais ne sont pas étrangers à la doctrine du réformateur. Et nous affirmons provisoirement ceci, c'est que le texte synodal définitif peut s'autoriser de nombreux passages de Calvin dans ses commentaires et surtout dans son œuvre homilétique. Calvin, je veux bien faire cette petite concession, encore que Calvin ne s'est pas trop arrêté au problème des attributs de Dieu, ou bien des vertus de Dieu, ou bien des propriétés de Dieu, dans l'institution de la religion chrétienne. Mais l'institution de la religion chrétienne, toute glorieuse qu'elle soit, n'est qu'une petite partie de l'œuvre de Calvin. L'œuvre de Calvin ne se ramène pas à l'institution de la religion chrétienne. Évidemment, c'est plus facile à trouver, à manier, à lire, mais ce n'est pas suffisant. Cependant, dans l'institution de la religion chrétienne, cependant sur Exode 34:6, Calvin énumère les attributs de Dieu. Il parle de l'éternité. Il parle d'un attribut un peu mystérieux, enfin. C'est l'acéité. Calvin parle de notre attribut de Dieu qui est l'acéité, c'est-à-dire d'une essence résidente en Dieu. C'est ça que dit l'acéité. Il parle de la clémence de Dieu, de la bonté, de la miséricorde, de la justice, du jugement, de la vérité. Alors c'est tout un catalogue qu'on trouve dans l'institution. Il y a un second catalogue aussi qu'on trouve dans l'institution de la religion chrétienne, qui s'inspire de Jérémie 9, verset 23, où Calvin parle de la miséricorde, du jugement, de la justice, de la puissance, de la vérité, de la sainteté et de la bonté. C'est vrai que dans l'institution, Calvin, rompant avec l'usage de la scolastique, passe le plus souvent directement au dogme de la vie. Mais par contre, dans ses commentaires, et surtout dans la prédication, Calvin manifeste un réel intérêt pour les attributs de Dieu. Et alors, nous allons continuer au prochain cours, c'est quelque affaire. Oui ?
Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est la sainteté ?
Oui, l'essence résidente en Dieu.